CO2, mon amour, avec le WWF. Ensemble, construisons un avenir où l'homme vit en harmonie avec la nature. Rendez-vous sur www.fr.
14h04 sur France Inter, on retrouve avec grand plaisir Denis Séchou. Denis Séchou.
Non mais vous inquiétez pas, quand j'ai...
Séchou.
À la maternelle, on me le faisait. Il y avait aucun problème, vous dites Séchou, mais c'est plutôt Chessou malgré
mais
tout.
Mais vous êtes chou quand même,
mais
Denis.
Oui, et puis j'ai mieux que les gorilles. Hein, quand même,
ouais, on va oublier tout ça en plongeant dans la fraîcheur de l'Allier aujourd'hui,
vous
Denis.
Vous avez tout compris, chère Corinne, on vous retrouve pour les informations de 15h.
Vous savez qu'il est formellement interdit aux compagnies aériennes de survoler Paris. Or, il n'est pas de nuit où vous n'êtes réveillé par le bruit tout proche d'un avion.
CO2, mon amour.
Il y a une chose que vous pouvez faire. Composez le 90606 sur le cadran de votre téléphone. Dès que vous avez quelqu'un au bout du fil, vous pouvez dire « Je t'emmerde, toi et ta saloperie d'avion, espèce de sale connard ». Vous pouvez recommencer autant que vous voulez, à condition que ce soit sans vous énerver.
Avec Denis Chessou.
C'est un droit établi que peu de gens connaissent.
Sur France Inter.
Eh bien voilà, donc c'était Claude Pieplu pour débuter. Bonjour à tous, bonjour à toutes. L'émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite s'appelle CO2, mon amour. Une émission qui rapproche les hommes, ou nous rapprochant de la nature, en tout cas qui essaie très modestement. Et c'est toujours cette nature qui chuchote à vos oreilles. Avec à la technique Victor Ouvrard, Camille Blanès est toujours bien sûr avec nous, merveilleuse et indispensable. Xavier Pestugia réalise l'émission. Commence toujours par une petite humeur. Bah tenez, après les gorilles de l'actualité, notre ami Laurent Houtan se grattait la tête du haut de son nid de branchage d'un arbre pas encore découpé en rondelles. Un congrès mondial de la nature de l'UICN, vrai lieu de dialogue indispensable, ne peut pas évidemment se monter qu'avec du bénévolat. Hein. Il faut des sponsors, des partenaires plus ou moins raccord avec le sujet de la sauvegarde de la nature. Nutella serait, selon le WWF, donc devenu le bon élève de l'huile de palme avec traçabilité à la clé. Alors certes, si on doit prioriser les fausses bonnes idées écolo, c'est d'abord l'huile de palme glissée dans nos réservoirs et nos moteurs, sans qu'on le sache, qui est une hérésie et qui fait énormément de dégâts bien avant de se tartiner les boyaux et de se sucrer les artères. Il y avait aussi Pernod Ricard, hein, qui soigne la qualité de l'eau et de nos foies, Bouygues Immobilier, qui a besoin de sable et de ciment, normal, la Compagnie du Ponant, qui fait voyager nos portables pour qu'ils photographient les derniers jours de la banquise et des ours blancs, la CMA-CGM, leader mondial, Cocorico, qui transporte tous les containers de la Terre, petite boîte remplie de nos désirs, qui nous affligent et de CO2 importés. Et bon, ainsi tournent nos vies, nos emplois et nos contradictions à tous. Alors, un peu plus cohérent quand même comme partenaire, il y avait la CNR, Vigilife, la Fête de la Nature, France Inter. Alors, pour BFM Business comme autre partenaire média, le rhinocéros, le dauphin, le vison d'Europe abonné à cette chaîne avait un léger doute. Quant à la BNP, eh ben, le renard du désert et le crocodile n'avaient pas l'ombre d'un doute, ils avaient trouvé plus fort qu'eux. Il se trouve que les grandes banques mondiales ont augmenté les financements accordés aux producteurs d'énergie fossile de près de 6% entre 2016 et 2020. Et la BNP fait la course en tête des Européens. Bon, mais toutes proposent maintenant des fonds verts, éthiques, durables, qui représentent quelques pourcents de leur activité climaticide. On est sauvés, mais il faut quand même bien le dire, il y a 10 ans, ces fonds-là n'existaient pas, donc on peut l'acter. La liste rouge des espèces hein, qui rédigent leur testament s'allonge sans même pouvoir faire un don à Isabelle Autissier, au WWF ou à Greenpeace. Mais partout, on commence à piger lentement, mais sûrement, que sans changer de système de comptabilité, de modèle agricole chimisé jusqu'à la racine, de surpêche et de plastique à tous les étages, on réduira façon puzzle les conditions de vie de nos mômes. On comprendra un jour que la nature est une grande mutuelle, la meilleure des assurances-vie, c'est ce que l'on raconte dans cette émission. Avec Robert Barbeau, Jean-Marie Pell, Jean-Louis Etienne, Hubert Reeves et tant d'autres depuis, allez, une trentaine d'années. Le grand singe se disait continuer à déforester, à subventionner la destruction de la nature, à exploiter les fonds marins et à taper dans la caisse du vivant. Eh ouais, Laurent Houtan et en emporte donc le vent. Et puis, il reposa son paquet de chips à l'huile de palme, qu'il avait vraiment trouvé trop dégueulasse. Il se disait, j'ai mieux à faire, je vais écouter CO2 mon amour, parce qu'il paraît qu'il parle d'animaux, de milieux naturels, et aujourd'hui d'une rivière à 12 000 km de mon arbre de Bornéo, qui s'appelle l'Allier. Allier de qui? Eh, de la nature, pardi.
A vine grows in the jungle like a lion flows on a page. A simplified correction caught in cage. A flower whispers on your breath, it likes your cosmic style. A satellite embrace lives just a while. We, us the pharaohs, live for sunlight as my heart grows to the east. The garden loves an email, thankfully. 5 million silhouettes on call, yet resting in a bay. They wish for 13 lovers each fine day. We, us the
on descend de son cheval. C'était Maxwell Farrington et le super homard. Bah oui, oui, c'est aussi ça. Il n'est pas encore complètement, totalement protégé, le homard, mais c'est pas mal non plus.
Voilà, on va aller au cœur du méandre. Voilà, l'Allier fait vraiment cherche. On dirait qu'elle cherche un peu son chemin parce qu'elle elle va contourner cette zone qu'on va aller explorer pour faire. Alors avant, on parlait d'un S, mais les méandres sont tellement accentués qu'on parle plutôt d'un oméga. Et très certainement, demain ou après-demain, enfin, on ne peut jamais prédire un petit peu les déplacements de la rivière, mais très certainement, la rivière coupera son cours pour laisser se méandre et créer un bras mort.
Ah, jolie fleur.
Une onagre, une grande diversité. Il y a plus de 600 plantes sur les bords d'Allier. Voilà, c'est reconnu en fait vraiment pour son patrimoine naturel à travers le nombre d'espèces de plantes et aussi d'oiseaux, puisqu'on est sur vraiment un couloir extrêmement important. On est sur le deuxième site d'accueil d'oiseaux, d'espèces d'oiseaux nicheurs en France en termes de nombre d'espèces. Donc c'est vraiment un site très important pour l'ornithologie.
Direction aujourd'hui l'Auvergne, le Bourbonnais n'est pas loin, nous sommes dans l'Allier, le département, et au bord de l'Allier, donc la rivière. Rivière sauvage, petite sœur jumelle de la Loire, qui l'attend les bras ouverts avant Nevers. Alors l'Allier chahute, modèle, recouvre ou redessine les rives en artiste, hein, selon la force de ses sédiments et de l'inspiration météorologique du moment. Alors les oiseaux, ils adorent ça, et puis en déplaçant, en déménageant son lit, bah c'est une aubaine, ça, pour les martins pêcheurs, les hirondelles de rivage, les guêpiers. Et puis, les poissons migrateurs, les alauzes, les amproies, les saumons ne se plaignent pas non plus hein, du reflet des peupliers noirs dans l'eau de leur enfance, qu'ils savent, qu'ils reniflent pour remonter frayés après le long voyage, le long récit du peuple migrateur à écailles qu'ils perpétuent malgré les obstacles. Alors le Conservatoire des espaces naturels de l'Allier, c'est une association de protection de la nature qui préserve, qui protège donc ce coin d'Allier et aussi la Loire, ainsi que les mares, les coteaux calcaires, les étangs qui vont abriter la cistude d'Europe. Donc c'est tout un travail de terrain, hein, d'écoute et de concertation avec les différents usagers. Hein, ça c'est vraiment la philosophie de ces conservatoires. On ne met pas la nature sous cloche, on fait le lien avec les activités humaines pour qu'elles perdurent demain, avec le moins d'impact possible sur la nature. Estelle Cournaise, jeune directrice de ce Conservatoire des espaces naturels de l'Allier, est notre guide dans cette rivière championne des méandres. Une passerelle, on enjambe une petite clôture, hop.
Toutes ces rivières qui autrefois étaient naviguées, en fait, sont les abords de ces rivières sont des propriétés communes depuis très longtemps, depuis le temps des Romains. Et donc, c'est aujourd'hui un domaine public fluvial, c'est-à-dire que c'est la propriété de l'État, comme on a sur le domaine maritime, sur 300 mètres, le domaine public maritime. Ouais. Ici, voilà, c'est l'État qui conserve les rives et les bords de l'Allier, qui peut s'étendre en largeur de quelques centaines de mètres à 3 km.
Oui, sur le littoral, c'est bien la bande de 300 mètres.
Voilà. Ça. Et ici, c'est vraiment au gré des déplacements de la rivière, cette zone peut s'étendre en largeur. Et donc, on a sur certains secteurs un domaine public fluvial de 3 km de large. Et donc, on a un couloir continu jusqu'au bec d'Allier.
Alors là, on est sorti de la forêt, des bois. Ah, alors là, ça y est, on voit notre Allier à 100 mètres. On se rapproche.
On accède sur les bords, on va aller un petit peu plus loin là-bas où on voit qu'il y a une ligne de peupliers noirs qu'on va aller parcourir. Et donc on voit notre rivière qui est avec un martin pêcheur là qui vient de passer.
Le trait bleu là qui.
Oui, le trait bleu, voilà.
C'est pas le trait bleu là, c'est le trait bleu.
Voilà.
Estelle, lorsque l'on parle d'une rivière justement sauvage, qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ces mots ?
Une rivière sauvage, ça ne veut pas du tout dire que c'est une rivière qui est sans l'homme. Au contraire, les cours d'eau ont souvent été le siège des premières implantations humaines. En fait, on qualifie la rivière Allier ou le fleuve Loire de rivière ou de fleuve sauvage parce que ce sont des cours d'eau qui ont été très peu aménagés et où on peut voir encore les phénomènes naturels s'exercer. Un cours d'eau, par nature, c'est donc de l'eau qui se déplace, mais aussi des sédiments. Et on a naturellement des méandres qui se forment et qui sans cesse bougent. C'est comme quand on est sur une plage, en fait, si on commence à faire couler de l'eau sur du sable, en fait, on va voir que on va partir d'abord d'un filet linéaire, et puis petit à petit, en fait, des méandres vont se former pour s'accentuer. Et quand ils seront trop accentués, en fait, l'eau va recouper ce méandre pour en créer un peu d'autres un peu plus loin.
C'est son travail.
C'est son travail, voilà. C'est la force naturelle de l'eau. Et ici, c'est particulièrement spectaculaire sur la rivière Allier dans le département de l'Allier parce que l'Allier s'écoule sur les sables du Bourbonnais, qui fait que les berges sont peu cohésives. L'érosion des berges va être très très facile. Sur certaines berges, en fait, si on s'amuse à sauter sur la berge, ça va être comme du sucre qui tombe à l'eau, ouais. Parce que ce sable, en fait, est peu compacté. Et donc, c'est particulièrement spectaculaire les déplacements de la rivière Allier sur le secteur, par la présence de ces sables du Bourbonnais et également par le fait qu'on est sur un cours d'eau qui a été très peu aménagé au fil du temps.
Il n'a jamais été corseté véritablement.
Non. En fait, quand on regarde les illustrations du XVIIIe siècle, on se rend compte que le Rhin, le Rhône, avaient à peu près la même physionomie que l'Allier. En fait, on avait un grand cours d'eau en tresse avec des îles au milieu. Mais sur le Rhin et le Rhône, on a vraiment mis les moyens pour corseter et canaliser ces deux cours d'eau. Alors que sur l'Allier, il y a bien sûr eu des tentatives, mais la force érosive de l'Allier a à chaque fois balayé en fait, les quelques protections de berges qui ont été mises. Ou alors s'est déplacé de l'autre côté. Et donc on retrouve encore dans la plaine des pérets, ce qu'on appelle les pérets, des anciennes protections de berges qui peuvent être à 1 ou 2 km du cours actuel de la rivière.
On appelle les pérets.
Les pérets, oui, qui étaient des ouvrages maçonnés en pierre sèche qui demandaient un travail très important, mais voilà, qui n'ont pas résisté à la force des flots de la rivière.
L'autre côté de la rivière, c'est déjà le paradis. Ce n'est presque plus la terre. Cette terre où tu t'en es, il y a de la lumière jusque dans le fond des puits. L'autre côté de la rivière, bah ouais.
On passe au milieu de gros buissons, c'est-à-dire c'est le studio de répétition des oiseaux là.
Voilà, exactement. Ouais. Peut-être apercevoir la pigrièche écorcheur qui s'installe sur ces buissons pour surveiller ce qui se passe.
Et puis il y a des points, donc ça, elle aime ça quand il y a des ronces. Voilà. Parce qu'en fait, elle va prendre des insectes, mettons une sauterelle, et puis elle va l'empaler.
L'empaler, voilà.
Et on fait sa réserve après. Alors, réchauffement climatique est allié. On le voit, et on le voit à hauteur d'homme, j'allais dire.
Oui.
On voit les champs là qui sont irrigués. On est passé à côté d'un champ de tabac. Il y a du maïs à pas loin, donc à perte de vue. Et bah, tout ça, faut irriguer.
Eh ben oui, en fait, on a la chance d'avoir sous nos pieds une grande nappe alluviale. C'est-à-dire qu'on parlait du sable tout à l'heure. En fait, on a 5, 10, voire 15 mètres de sable sous nos pieds. Il faut s'imaginer que la rivière, dans des temps très anciens, a creusé, en fait, dans le lac de Limagne, son lit. Et ensuite, avec l'érosion du massif central, a complètement comblé cette grande cuvette allongée de sédiments de sable, qui aujourd'hui accueille une nappe alluviale qui alimente plus des deux tiers du département en eau potable. Donc on a vraiment une ressource très précieuse qui sert également pour l'irrigation donc de ces grandes cultures qui ont colonisé petit à petit la plaine.
Ah, quand même, il faut se poser la question du partage de l'eau là, entre les différents usagers.
Exactement, puisque là, cette année, on est en grande sécheresse. Hein, les arrêtés qui limite l'usage de l'eau habituellement sont pris au 15 août, et là dès le mois de juin il a fallu restreindre les usages. Et en effet, alors on a, comme je le disais, une ressource en eau potable déjà, donc la plupart des habitants du département, quand ils ouvrent leur robinet, cette eau elle vient de la nappe qui est sous nos pieds au bord d'Allier, mais également les maïsiculteurs ont la nécessité d'irriguer, mais très certainement demain les prévisions à 50 ans montrent que on aura vraiment une plus grosse pénurie d'eau, donc c'est certainement bien. Qu'il va falloir se poser des questions sur les usages, notamment agricoles, de demain.
Ouais. C'est donc là que ça va chauffer, inévitablement.
Ouais. On essaye de soutenir en fait l'élevage. On travaille beaucoup avec les agriculteurs pour essayer de les aider à maintenir l'élevage qui permet d'entretenir ces milieux naturels. Et puis qui, de tout temps, a été plus compatible aussi avec l'entretien des bords d'Allier que les usages modernes.
Oui, on a des vaches paysagères aussi. Quoi.
Voilà, des vaches paysagères qui animent le territoire et l'entretien.
Alors cet Allier a pu se refaire une santé quand même au mois de juillet, mais nous sommes avec Estelle Sourdeau-Cournin, je ne vous l'ai pas dit, entre Vichy et Varennes-sur-Allier. Hein. Ça c'est du côté de Créchy. Alors là maintenant, François Maguigné, homme de la Lozère, amoureux des rivières, eh bien nous allons remonter à la source dans les gorges de l'Allier à Chaperoux.
Nous sommes ici dans la douceur du Val d'Allier. Au cœur de cette roche métamorphique, nous avons quelques orgues d'ailleurs métamorphiques à proximité immédiate de nous.
Je peux juste dire ce que sont les orgues.
On appelle ça les orgues parce que ça rappelle effectivement les tuyaux d'orgues, ces coulées de lave, puisque nous sommes en pays volcanique, ces coulées de lave qui se sont pétrifiées et rappellent des tuyaux d'orgues dont certaines sont célèbres, je pense à celle du Bord-les-Orgues, d'où ma mère est originaire. C'est pour ça que...
Voilà, salut, très bien. Alors François, un peu plus haut, c'est-à-dire chez vous en Lozère, bah, l'Allier prend sa source dans un lieu qui s'appelle le Mour de la Gardille, à 1400 mètres d'altitude.
Encore une rivière née en Lozère, comme d'autres innombrables rivières. J'aime beaucoup l'Allier parce que c'est une rivière dont l'approche est, en tout cas dans le Val, dans les gorges, dont l'approche est toujours difficile. Donc il faut mériter sa pêche, il faut marcher.
On s'intéresse en fait à un poisson que l'on ne va pas toucher, parce qu'il est interdit de le prendre. Lorsque le saumon a besoin d'aimer, eh ben, il remonte ici. Il est parti de la mer, il a remonté l'estuaire de la Loire. D'ailleurs, il a fait un petit peu comme il a pu, parce que ce n'est pas forcément évident. Et puis, au bec d'Allier, il est remonté, et c'est là donc qu'il va frayer.
Voilà, alors ça, c'est l'aventure du saumon atlantique est une aventure extraordinaire. Et il y a une multitude de variétés de saumons dans le monde, mais cette souche saumon atlantique est extraordinaire parce que c'est le seul saumon à remonter 800 km de rivière pour aller frayer sur les hautes frayères de l'Allier, voire du Chaperoux en Lozère. C'est vrai qu'il arrive exténué après un voyage de 800 km, après avoir franchi une multitude d'obstacles constitués donc par les seuils de pont, les barrages, des zones où ont été extraits le gravier, voilà les gravières. Donc il faut une force phénoménale et une motivation extraordinaire à ce poisson pour remonter ces 800 km de rivière.
Là, nous sommes à 500 mètres d'altitude. Le saumon commence à frayer à partir de cette altitude-là.
Ou sur les hautes frayères du Chaperoux ou de l'Allier, il peut remonter frayé jusqu'à 950 000 mètres d'altitude.
Je crois, François, qu'il y a une époque qui n'est pas si ancienne que cela, où les ouvriers, ici, mangeaient du saumon tous les jours et en avaient un petit peu marre.
Au point qu'ils avaient demandé, et ça a fait l'objet d'écrits, je dirais, de conventions, à ce qu'il ne leur soit pas servi plus de deux fois par semaine du saumon.
Oui.
Ce qui montre bien l'importance que revêtait ici la présence du saumon, tant sur le plan culturel, la pêche. Il y avait aussi beaucoup de pêcheurs étrangers qui venaient pêcher, des Anglais, et notamment cette race particulière de saumon atlantique. Nous, pêcheurs, les pêcheurs qui fréquentent assidûment les rivières, savent que chaque rivière a un parfum particulier. Là, on a un parfum, cette alien, elle a un parfum. C'est difficile à dire, mais si vous voulez, mais c'est quelque chose de profondément instinctif.
Donc vous êtes vous-même un peu un saumon, quoi, c'est ça?
Oui. Vous voyez, je crois qu'on finit par devenir un peu poisson.
Ah oui,
même,
un peu de mimétisme.
Lorsqu'on est pêcheur, il y a un mimétisme, je crois, incontestable.
Saumon de l'Allier, saumon altier, merci François Maguignet. On va poursuivre ce voyage au bord de l'Allier. On va retrouver Estelle Cournaise dans quelques instants. Tenez, après qui? Ah, et Cher.
J'attends à la rivière, je surveille le chemin, je n'ai rien d'autre à faire.
Love.
Tout simplement Rivière sur France Inter dans C'est haut de mon amour, c'était Stéphane Escher.
Quel bonheur, ce soleil, cette terre, ce parfum, ces collines, ces arbres, ces oiseaux, ces œufs à la côte.
France Inter, C'est haut de mon amour avec Denis Chessou.
Eh oui, petit clin d'œil, évidemment. Alors, nous revenons sur cette rivière, 421 kilomètres, je vous disais tout à l'heure, alliée bien sûr de la nature, pardi, mais aussi donc alliée des humains, enfin de tout le monde, avec quand même une nappe alluviale qui offre de l'eau potable aux 2/3 de la population, donc c'est pas rien. Le sable, bah évidemment que le sable, il est convoité, hein. En 30 ans, on a volé à cette rivière ce qu'elle aurait mis à peu près 400 ans à faire passer en aval. Donc maintenant, il y a une prise de conscience quand même des carriers, évidemment, car c'est un matériau qui n'est pas du tout renouvelable. Et donc, nous poursuivons avec Estelle Cournaise, de Conservatoire des Espaces Naturels, cette balade. Venez, si vous voulez, vous pouvez être devant, à côté de nous, mais plutôt en silence. Hein. Rêverie au bord de l'Allier. Il a un petit peu plus de vent. L'Allier qui s'élargit. Voilà, qui autre méandre.
Contourné, alors... La ligne d'arbres qu'on voit là, ce sont des peupliers noirs. Oui. Donc les peupliers noirs, c'est vraiment l'espèce caractéristique des bordaliers. Et en fait, si on prenait un peu de hauteur, on verrait que ça fait vraiment une ligne qui correspond à une ancienne berge de la rivière. En fait, les peupliers germent vraiment dans des conditions très particulières. Il faut qu'il y ait un degré d'humidité particulier sur la berge. Et donc souvent, ça donne ces lignes que l'on voit sur les photos aériennes, ces lignes de peupliers noirs.
Écoutez le son en fait de nos pas, parce que il y a ce mélange de sable et de petits cailloux, de graves, qui donc ont tous été plus ou moins issus du Massif Central et qui sont arrivés là. Hein.
On a toute la géologie du Massif Central à nos pieds, donc c'est un festival de couleurs avec toutes les roches, donc bien sûr
du basaltique, granitique bien sûr.
Voilà. Et si on prête attention, on peut aussi trouver des trésors. Notamment tout un tas de pierres taillées par les hommes préhistoriques qui faisaient usage sur les bordaliers, qui avaient toute la ressource, donc bien sûr en eau, en bois, mais également en pierre. Et donc il est très facile pour quelqu'un qui a l'œil aiguisé de trouver des pierres taillées, des silex, des racloirs, des flèches. J'ai moi-même trouvé une lame de poignard de l'âge de bronze en venant pique-niquer avec mes enfants par ici. Ou même ici a été retrouvée une défense de mammouth de 2 mètres de long, en fait, des gens qui se promenaient dans les années 2000 et qui sont tombés sur une défense de mammouth. C'est pas banal quand même. Non.
Parlons des bateaux, parce que voies de communication, que sont donc ces rivières et ces fleuves,
oui,
qui ont permis d'ailleurs aussi de faire transiter naturellement des marchandises, mais aussi les idées républicaines à une époque, parce que c'était quand même des grandes voies, et c'est comme ça que les échanges intellectuels se faisaient également. Et ça a été très actif.
Oui, en fait, pendant très longtemps, les routes du Bourbonnais n'étaient pas très propices au déplacement. C'était vraiment la rivière Allier qui a permis le développement de l'Auvergne, notamment le commerce vers Paris avec l'ouverture du canal de Briare. Ouais. C'est vrai qu'on peine à imaginer que l'Allier puisse être connecté à Paris. Et c'est en regardant les cartes qu'on se rend compte qu'il y a le canal de Briare qui permet quand même de connecter la Loire à la Seine. Donc pendant très longtemps, en fait, au XVIIIe siècle, il y avait plus de 2000 bateaux qui parcouraient l'Allier. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est dans ce lieu paisible, on peine à imaginer
Il y avait tout un trafic qu'on aurait eu sous les yeux, là.
Ah ouais. Oui. En fait, on avait ces voyageurs au long cours qui donc faisaient commerce jusqu'à Paris ou jusqu'à l'Atlantique. Et puis, il y avait également tous ceux qui gardaient les troupeaux sur les bords d'Allier ou également les passeurs. En fait, pendant très très longtemps, les ponts ne tenaient pas sur l'Allier. On n'avait pas la technique et puis les forces de la rivière étaient trop puissantes. Donc, on franchissait la rivière par des bacs. Voilà, avec un passeur. Et puis on avait également donc ces paysans bateliers qu'on a oubliés, mais vraiment ici l'outil principal des paysans sur les bords d'Allier, c'était la barque qui leur permettait d'aller chercher les troupeaux et d'aller d'une rive à l'autre sans cesse.
Oh, un castor! Je n'ai pas le temps de faire la conversation et il faut que je traîne ce sycomore jusqu'au mât!
Mais ça ne te prendra pas plus d'une seconde!
Une seconde? Mais c'est gigantesque!
Ah, alors, notre castor, pas sûr qu'il nous attende. Hein.
Je soupçonne qu'il vit en fait là, juste sous la ligne de peupliers noirs.
Bon, attendez, ça se voit là.
Parce que il y a du boulot mètres, au-dessus, là, ouais. Je crois apercevoir un trou là, du dessous.
Ah bah oui, si, ça ouais. C'est une entrée ça.
Et donc, il n'a pas vraiment besoin de faire de barrage, notre castor ici, parce qu'il a des grandes étendues d'eau. En fait, il fait ce barrage plutôt pour pouvoir être toujours à proximité de l'eau. Comme ça, en cas de problème, il peut prendre la fuite plus rapidement, parce que c'est un peu pâteau, un castor sur terre, alors que dans l'eau, ça se débrouille très bien. Mais ici, sur le Redan, le petit affluent qu'on a passé tout à l'heure, un peu plus haut, il s'était amusé à faire un barrage avec des fades de maïs. Ah. Voilà, il a utilisé les produits locaux.
Ah oui, ah oui. Circuit court.
Voilà. Pourquoi on a tant d'espèces qui vivent sur les bords d'Allier ? C'est parce que la rivière, en fait, en déplaçant son lit, va créer toute une mosaïque de milieux naturels. Donc, le cours de la rivière lui-même, bien sûr, accueille des poissons comme le saumon atlantique, mais aussi la lamproie, la lauze, enfin tout un tas de poissons migrateurs ou de poissons plus locaux. On a ensuite la rivière donc va éroder ses berges et créer ses talus dans lesquels vont s'installer le martin pêcheur, l'hirondelle de rivage, le guêpier. Voilà, donc on a ces espèces qui nichent dans les talus. Ensuite, tout ce que la rivière va éroder en termes de galets ou de sable, elle va le déposer sur l'autre rive un peu plus en aval. Et donc là, sur ces zones, on va avoir des espèces qui sont capables de supporter l'ennoiement pendant l'hiver, mais également des températures extrêmement fortes en été. Il peut faire plus de 50 degrés
à la surface.
Et donc, on a des espèces vraiment adaptées qui ont un réseau racinaire très profond pour aller chercher l'eau en profondeur. Et donc, on a des espèces comme notamment l'épervière de Loire, qui est une petite plante qui ressemble à un pissenlit et qui s'est tellement adaptée aux conditions de vie sur les bords d'Allier et de Loire qu'elle, au fil de l'évolution, en fait, elle est devenue endémique de ces bords d'Allier et de Loire. On la trouve que sur ces grandes plages de galets et de sable. On peut peut-être prendre par là pour aller voir une zone qui est très active en termes d'érosion. En fait, il faut savoir que sur la rivière Allier, depuis Brioux, où elle débute son cours alluvial, elle érode 35 hectares par an, dont 26 hectares dans le département de l'Allier. Chaque année, 26 hectares tombent dans la rivière. Alors, les deux tiers de cette érosion se fait sur le domaine public fluvial, ce qui ne pose pas problème, puisque donc, c'est un bien commun qu'on a tous. Mais en se déplaçant, elle va aussi éroder des parcelles privées. Et ces parcelles privées, souvent, sont des parcelles agricoles, servent d'outils de travail aux agriculteurs, donc le conservatoire, aider des pouvoirs publics, les collectivités, l'agence de l'eau, l'État, l'Europe, a des moyens pour proposer l'acquisition de ces parcelles qui sont en cours d'érosion aux propriétaires. Et ensuite, on travaille avec les agriculteurs pour essayer de maintenir ou restaurer un usage plutôt pastoral de ces zones. On se rend compte que cette dynamique fluviale, cette capacité qu'a la rivière de bouger son lit, elle est vraiment essentielle pour maintenir cette mosaïque de milieux naturels, la régénérer, mais également pour maintenir la ressource en eau. Sous nos pieds, on a une grande nappe alluviale qu'on pense être préservée pour toujours, mais on s'est rendu compte que si on empêchait la rivière d'éroder ses berges, cette capacité d'érosion, en fait, elle ne va plus faire sur la berge, mais en profondeur dans le fond de son lit. Et donc, on a ce qu'on appelle l'enfoncement du lit de l'Allier, qui fait un peu comme une chasse d'eau et qui va vider la nappe alluviale. Et donc, on a un enfoncement, une disparition de la nappe alluviale. Donc, c'est vraiment ce qui a fait prendre conscience au pouvoir public qu'il fallait laisser la rivière éroder ses berges pour éviter cet enfoncement et maintenir la capacité de la nappe alluviale.
Waouh ! Allez, autre virage. Autre qui virage. S'appelle un méandre.
Voilà, alors on est toujours dans cette grande boucle de Créchy. Et là, on aperçoit ce que j'évoquais tout à l'heure, en fait, ce talus d'érosion vraiment à pic.
Très net.
Alors, dans lequel on voit les trous en fait, des nids d'hirondelles de rivage ou de guêpiers d'Europe. Donc ce sont des trous profonds d'un mètre. Parce que au fil de l'été, en fait, même si la rivière érode moins, il y a une instabilité de la berge.
Ouais.
Et donc ça peut tomber. Constamment.
Pour refaire l'intérieur, quoi.
Pour refaire l'intérieur. Ouais. Mais bon, c'est pas mal, hein, quand même, comme hôtel.
Bien. Hein.
Vu sur la Lyre, je veux bien. Hein. C'est un peu étroit, certainement. Mais... Alors ici, quand on vient tout seul la première fois, quand on veut retrouver sa voiture, naturellement, on repart à la perpendiculaire du cours d'eau.
Ah, pas bon.
Sauf qu'on peut faire, on peut faire pas mal de zigzag avant de la retrouver notre voiture, parce qu'on est vraiment là, là l'Allier nous entoure. Hein, on est,
on fait
quasiment un cercle.
Encerclé.
Voilà.
C'est notre ceinture là.
C'est ça.
Allez, encore une passée dans le ciel.
On n'a pas d'aigrettes. Alors on a des aigrettes, des cigognes. Le Balbu Lazare pêcheur a eu la bonne idée depuis 2 ans de s'installer pour se reproduire sur les bords d'Allier entre Varennes et Moulins. Donc on a des grandes espèces comme ça emblématiques qui sont en train de reconquérir le Val d'Allier, même si ça cache forcément la disparition de tout un tas d'autres espèces moins emblématiques. Donc voilà, donc cette zone-là elle n'existait pas il y a encore 1 ou 2 ans. Et donc à chaque fois qu'on vient s'y promener, ça a changé de physionomie, puisque l'Allier a remodelé ses tas de galets. Voilà, ça ne ressemble jamais à l'image qu'on avait la fois précédente.
Une cohorte d'oiseaux, d'animaux, de plantes qui en font donc un patrimoine naturel, on l'a compris, très très riche. Hein, c'est la raison pour laquelle, suite à quand même une très bonne gestion du milieu entre Vichy et le Bec d'Allier, le Conservatoire des espaces naturels demande la labellisation Ramsar. Ça, vous connaissez pas forcément, mais c'est donc un label extraordinaire qui est attribué, alors vraiment dans le monde entier, aux zones humides qui sont remarquables. Donc véritablement, on leur souhaite. Il y avait, merci à Victor Ouvrard, la technique aujourd'hui, à Camille Blanès, à Xavier Pestugia qui a colorisé cette émission, à Thierry Dupin qui a choisi les disques, à Anne Gouzon, vous avez un certain nombre de sites sur le site de CO de Mon Amour, que vous pouvez réécouter bien sûr en podcast, comme la Tulu Mon Petit Loup aussi. Semaine prochaine, je vais vous emmener du côté d'Amiens. Ah bah ouais, là on sera aussi d'un peu dans l'eau, parce qu'on va quand même vous parler des ortillonnages d'Amiens qui ont repris, on va dire, un peu grâce avec le Covid. Quoi. Les histoires de circuits courts, c'était pas complètement intéressant du tout. Donc ce sera le sujet la semaine prochaine, les ortillonnages à Amiens. Et puis, après on aura encore d'autres. À chaque fois on va changer, hein. On change de région, on bouge, etc. Vous aurez de la plage bientôt, on va partir dans le Gard. Enfin voilà, j'ai plus tout en tête, mais vous le savez, il s'agit de prendre l'air. Il est 14h41 et 30 secondes. Hop là.
CO2, mon amour, avec le WWF. Ensemble, agissons pour laisser une planète vivante. Rendez-vous sur wwf.fr.